Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Et en Midi-Pyrénées, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Carnet de Région, le magazine d'actualité de votre région Occitanie. Au programme cette semaine, RCF Maglone-Hérault nous parlera de la nouvelle campagne lancée contre le mobilier anti-SDF. Radio Bartas continue à nous parler de la dimension politique du cadrage moderniste de la nature. Radio Grille Ouverte nous présentera le concours annuel Alès Audace qui s'est tenu ce 12 décembre. RCF Maglone-Hérault nous parlera de l'interdiction des téléphones portables dans les établissements scolaire. Et enfin, Radio Partas nous présentera l'exposition instantanée de quartier d'Alès. La Fondation Abbé Pierre et Emmaüs lancent leur nouvelle campagne contre le mobilier anti-SDF dans les centres-villes. Chacun d'entre vous est invité à tweeter sur le hashtag Soyons Humains une photo d'un de ces dispositifs, des picots, des sièges inclinés et sa localisation. Ils sont ensuite répertoriés sur une carte en ligne. Pour l'instant, il y a 17 signalements dans l'Hérault, la majorité à Montpellier. Cibler ces équipements, c'est un choix symbolique pour Sylvie Chamvou, présidente de l'agence Occitanie de la Fondation Abbé Pierre, dont les propos ont été recueillis par Alice Berthias pour RCF Maglone-Hérault.
Cette campagne pour nous, elle est symbolique. Elle est symbolique de beaucoup de choses. Et ces dispositifs anti-SDF, on les a choisis parce qu'ils sont le marqueur de ce que la société aujourd'hui peut proposer. On se rend compte aujourd'hui que les personnes qui sont en difficulté, on essaye de les pousser de plus en plus loin à l'écart des villes, à l'écart du regard de tous. Les dispositifs anti-SDF, ça part des fauteuils individuels, là où autrefois on trouvait des bancs où les gens pouvaient s'allonger et se reposer. Ça passe aussi par les picots devant les vitrines des magasins. On a aussi des dispositifs bien plus ingénieux, type douche froide devant les entrées de parking, type grille devant les porches pour éviter que les gens puissent se mettre à l'abri des porches. L'idée, c'est de dire mobilisons-nous tous, on est tous concernés. On est dans l'interpellation, y compris des politiques, sur le fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'un électrochoc, on a besoin de réagir, de créer des places d'accueil dans les villes, on a besoin de créer du logement. La Fondation Abbé Pierre, sa bataille, c'est celle-là, c'est un logement digne et une solution digne pour tout le monde.
Propos recueillis par Alice Berthias pour RCF Maglone-Hérault. Fin novembre, l'Institut Supagro de Montpellier a organisé une journée scientifique sur le thème « Les relations homme-nature dans la transition agro-écologique ». Durant cette journée, Elliot, de Radio Bartas, a rencontré Pierre Charbonnier, chercheur et philosophe de la Terre. Il nous propose le second épisode, la seconde grande rupture dans l'histoire, la révolution agro-industrielle au tournant 18e-19e siècle.
Moi, la question que je voudrais poser, c'est la question au fond de la dimension politique de ce cadrage moderniste de la nature.
Pierre Charbonnier, est-ce qu'on peut te présenter comme un philosophe de la Terre ?
Oui, alors ce serait peut-être un petit peu prétentieux comme caractérisation, mais je suis un philosophe et je m'intéresse à la Terre, donc dans ce sens, oui.
Polanyi montre qu'à cette époque se met en place un marché de la Terre. Et pour traiter cette question, il forge le concept, au sens central, de marchandise fictive. Pour lui, il y en a trois, des marchandises fictives. Il y a le travail, la monnaie et la Terre. Pourquoi dit marchandise fictive, c'est-à-dire marchandise qui n'en est pas totalement une. Ce qu'il veut dire, c'est que chacune de ces trois choses tend à être soumise aux lois du marché. C'est-à-dire qu'il y a une offre et une demande pour le travail, il y a une offre et une demande pour la monnaie, il y a une offre et une demande pour la terre, et c'est la rencontre entre un offrant et un demandeur qui détermine le prix de ces choses. Bon, mécanisme très banal hein, des économies libérales contemporaines. Le problème, c'est que au sujet de ces trois choses-là, les dispositifs de marché s'appliquent à des choses qui ne sont pas réductibles à leur statut de marchandise. Par exemple, qu'il y a un marché pour le dentifrice, ça n'est en principe pas contradictoire avec la nature de l'objet dentifrice. Par contre, qu'il y ait un marché du travail entre en conflit avec le fait que le travail, c'est aussi de la vie. C'est la vie de chacun des individus qui va vendre ou louer sa force de travail à un employeur.
Donc, effectivement, dans ces conditions-là, la Terre a quelque chose de primordial. Après, il se passe plein de choses. Il se passe la sédentarisation, la domestication des plantes et des animaux, qui en fait accroît encore notre dépendance à la Terre, parce que cette Terre-là, c'est une Terre sur laquelle on va exercer tendanciellement un contrôle positif direct, en sélectionnant des espèces cultivées, en leur donnant une terre dans laquelle elles vont prospérer, en sélectionnant des animaux qu'on va domestiquer et dont on va consciemment faire varier les traits phénotypiques pour les amener à entretenir des relations de dépendance avec nous, humains. Donc, c'est à ce moment-là que dans l'histoire humaine, c'est ce que certains théoriciens ont appelé l'âge axial, c'est là que les monothéismes commencent à apparaître ou à trouver leurs premières conditions, c'est-à-dire l'idée en fait que l'être suprême est d'une certaine manière un homme, ou à, disons, de type humain, et plus de type naturel. Donc ça, c'est une première grande rupture dans l'histoire. Et puis la deuxième grande rupture dans l'histoire, bah, c'est la révolution agro-industrielle du 18e, 19e siècle. Enfin, en fait, il faut dire agro-industrialo-impérial, parce que ce sont ces trois phénomènes qui vont ensemble. Révolution à l'intérieur de laquelle la question de la Terre se repose sous l'angle en fait, de l'amélioration continue des conditions matérielles d'existence, de l'accès à la prospérité économique, à l'abondance, voire en fait à la surabondance, via l'appropriation des terres coloniales, via le développement des techniques agronomiques d'amélioration, via l'application du capital et du temps de travail réglé à la terre.
Même chose pour la monnaie, il existe un marché de la monnaie, mais en même temps la monnaie c'est quand même d'abord un instrument d'échange, plutôt que l'objet de l'échange. Et donc même chose pour la terre, puisque la terre, une fois qu'elle est clôturée, parcellisée, qu'un titre de propriété lui est attaché, elle s'échange comme absolument n'importe quel autre bien, n'importe qui peut se devenir propriétaire d'une terre. Mais en même temps, cette terre n'est pas réductible à sa dimension marchande, puisque c'est aussi le sol où s'établissent des personnes, des groupes, qui, il a commencé à le dire, peuvent entretenir avec ce sol une relation qui n'est pas purement économique, mais ce que Polanyi appelle l'habitat, en fait. C'est là où on habite. C'est, par exemple, ce qui pourvoit un certain sens de la sécurité, de la stabilité, mais aussi il y a ce rapport voilà, mémoriel, historique, patrimonial, voire esthétique à la terre. Et ce qu'explique Polanyi, c'est que la coexistence entre la dimension marchande et la dimension non marchande de la terre a conduit à des conséquences explosives et en fait catastrophiques qui ont déterminé une bonne partie de l'histoire de l'Europe et du monde au XXe siècle.
C'était un reportage d'Eliott Ratineau pour Radio Barthes.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.
Mardi s'est tenue dans le Théâtre d'Alès une grande soirée consacrée à l'économie du bassin industriel du territoire alésien. Après un passage à vide dans les dernières décennies du XXe siècle avec la fin de l'exploitation du charbon, l'industrie alésienne a retrouvé aujourd'hui dynamisme et initiative. Des initiatives précisément mises en scène et en lumière avec la création du concours annuel Alès Audace. Un concours doté de 130 000 euros valorisant les projets innovants des jeunes pousses industrielles et commerciales, comme le rappelle l'initiateur de cette manifestation, le vice-président de l'Aglo d'Alès en charge du développement économique, Jalil Ben Abdillah.
Il s'agit d'un concours qui va promouvoir l'esprit d'entreprendre, la création, l'audace au sein de notre territoire. Et c'était un concours au départ d'idées, adressé à toutes celles et tous ceux qui souhaitent développer des projets, des idées, et qui ont des idées et qui veulent les réaliser au sein de notre territoire, mais les implanter ici. Aujourd'hui, depuis un an, le concours a pris un virage. C'est devenu un concours de projets qui ont une vraie valeur ajoutée et qui créent de l'emploi ou de la richesse, en tout cas, qui ont une finalité économique. Le format a encore changé et évolué cette année, puisqu'on a adossé au concours à Alès Audace, qui va promouvoir donc les créations d'entreprises, les développements de projets d'entreprises existantes, et on a rajouté à l'honneur et la mise en lumière d'entreprises historiques du territoire qui font l'économie de ce territoire, en plus d'une conférence économique de très haut niveau avec un grand témoin qui était aujourd'hui Louis Gallois.
Sur 22 projets très divers, 11 d'entre eux se verront récompensés au cours de cette soirée. Le grand vainqueur de ce concours, primé tout à la fois par le premier prix d'Alès Audace et par le prix du public, fut le projet Medcam, doté de 28 000 euros pour développer, fabriquer et commercialiser, avec l'aide de l'incubateur de l'école des mines d'Alès, un dispositif médical à destination des chirurgiens. Explication détaillée par Clément Labiche, l'un des 4 porteurs de ce projet.
C'est tout simplement un dispositif médical pour un type de chirurgie bien spécifique, dite mini-invasive, qui est la célioscopie. On fait de petites incisions dans le ventre, on introduit une caméra, et à partir de là, le chirurgien peut voir sur un écran ce qu'il fait au niveau des organes. La problématique, c'est que toutes les 10 à 15 minutes, il y a des projections de sang, des dépôts de graisse viscérale ou de la condensation qui vient se former sur la caméra, obligeant à la sortir du corps du patient pour la nettoyer. Donc arrêt du geste chirurgical, déconcentration sur le site opératoire et perte de temps. De là, on s'est dit, pourquoi pas développer un dispositif médical à usage unique qui s'adapte à toutes les caméras existantes dans le monde, permettant de nettoyer intracorpus la caméra pendant toute la durée de l'intervention. Et donc, maintenir une constante qualité d'image pendant ces interventions. Actuellement, on va rentrer en évaluation clinique pour 2018, puisqu'on a dû faire beaucoup de tests sur la conception, sur la validation technique. On a déposé un brevet également il y a quelques mois. Et cela va nous permettre justement donc de lancer l'évaluation clinique et de gérer toute cette partie avec nos sous-traitants qui nous soutiennent et tous les partenaires qui sont derrière nous pour une commercialisation début 2019.
Clément Labiche, comment vous est venue cette idée d'essuie-glace sur une mini-caméra ?
L'idée est venue de ma sœur, donc Céline Verlet, qui est à la base du projet ou de l'idée, puisqu'elle est très régulièrement en bloc opératoire et elle s'est posée cette problématique. Il n'y a rien qui existe aujourd'hui sur le marché qui permet de nettoyer ces caméras. Pourquoi pas innover, développer un dispositif qui permet de le nettoyer, donc comme un espèce de lave-glace au final.
Le concours Alias Audace vous récompense du premier prix, 25 000 euros, du prix du public également, 3 000 euros. Qu'allez-vous faire avec ces 28 000 euros ?
On a pour ambition de construire une usine d'assemblage au sein d'Alias Agglomération.
S'il est encore un peu tôt pour Clément Labiche de préciser le nombre d'emplois qu'entraînera la création de l'usine d'assemblage Medcam, les jeunes cinéastes des Chroniques Végétales, Anaïs Boleg et Olivier Marcon, pensent d'ores et déjà employer de 7 à 20 intermittents du spectacle avec leur chronique audiovisuelle coproduite par Arte. Ce projet, différent de par sa tonalité culturelle, fut le coup de cœur du jury à la grande et agréable surprise de Olivier Marcon.
Donc c'est une série de 10 épisodes, très court, 3 minutes, très compact, très dynamique, avec plein d'anecdotes pour apprendre plein de choses. On va apprendre des petites choses botaniques, des choses scientifiques, des recettes culinaires pour cuisiner avec les plantes qu'on trouve partout autour de chez nous. C'est des plantes simples qu'on va trouver vraiment partout. Notre plante un peu fétiche en ce moment, c'est le plantain lancéolé, mais on a l'ortie, le pissenlit, on a la bourrache, la consoude, la reine des prés et plein d'autres. On va dire que notre leitmotiv sur cette série, c'était vraiment de réconcilier un petit peu l'homme et la nature. Ce soir, on a vu beaucoup de technologies, c'est très très bien. Nous, notre but, c'est un petit peu plutôt de se reconnecter aux racines et d'apprendre à redécouvrir des choses qui sont très simples et partout autour de nous. Et d'en faire des choses avec et voilà, de s'émerveiller avec la nature en fait. Et surtout, c'est en apprenant à connaître les choses qu'on se met à vouloir les protéger.
Récompensés par une dotation de 7000 euros, les films Invisibles, seule société de production audiovisuelle professionnelle implantée à Alès, devraient voir la première de ses chroniques végétales diffusée à l'automne 2018 sur le site web d'Arte. C'était un reportage réalisé par Yves Defago pour Radio Grille Ouverte. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé vouloir interdire les téléphones portables dans les écoles à la rentrée prochaine. C'est selon lui un message de santé publique. À Montpellier, cette interdiction est déjà plus ou moins appliquée. François Charbonnel.
Oui, et dans certains établissements, le téléphone portable est déjà interdit, comme au collège Clémence Royer à Montpellier, où Éric Penseau est principal.
Dans l'établissement que je dirige, les téléphones portables ne sont pas autorisés, donc ça ne va pas être une révolution énorme. Effectivement, la plupart de nos élèves auront un téléphone portable dans leur poche ou au fond de leur sac, mais ils n'ont pas le droit de s'en servir dans l'établissement. Ça fait partie du règlement intérieur, donc c'est quelque chose en plus auquel je crois particulièrement, parce qu'une cour de récréation, ce n'est pas pour téléphoner, c'est pour avoir des relations sociales, pour les plus petits pour jouer, pour les plus grands discuter. Il peut y avoir un élève qui sort son téléphone pour envoyer un texto, ça arrive ponctuellement. Dans ce cas-là, les téléphones sont confisqués. Ça, c'est la situation actuelle.
Le ministre a évoqué l'idée de mettre en place des casiers où les élèves pourraient ranger leurs téléphones, mais ça risque de poser un problème d'organisation, selon Armel Henderson, principale adjointe au collège Jeux de Maille, où les téléphones sont tolérés.
C'est pour la rentrée 2018, ça nous laisse encore le temps d'en discuter, évidemment avec nos équipes pédagogiques et avec les personnels adultes de l'établissement, et voir comment on pourrait éventuellement envisager où on met ces casiers. Qui gère les accès? Comment on organise les accès? Parce que 500 enfants qui vont se précipiter sur une rangée de casiers en même temps, c'est pas gérable. J'imagine encore moins bien un collège de 1000 élèves. Franchement, on n'a pas réfléchi, je ne peux pas vous dire comment on pourrait mettre ça en place. Le système casier me paraissant franchement très 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 compliqué.
Jean-Michel Blanquer souhaite que l'interdiction des téléphones portables dans les établissements scolaires entre en vigueur à la rentrée 2018.
C'était les explications de François Charbonnel pour RCF Maglone Hérault. Du samedi 16 au mercredi 21 décembre se déroule à Alès l'exposition instantanée de Cartier. Une soixantaine de photos représentant des habitants des quartiers dits prioritaires, prises sur le vif dans ce qui sort de l'ordinaire, vont être accrochées à la vue de tous. Camille a pu interviewer l'organisateur Éric Antolin pour discuter avec lui de ces clichés qui défient ceux que l'on peut avoir sur les cités difficiles.
Donc instantané de quartier, exposition qui va se dérouler, enfin qui va vraiment commencer ce 16 décembre, c'est-à-dire ce samedi, jusqu'au 21 décembre. Ce qui est très très intéressant, c'est que c'est deux photographes qui ont réalisé cette exposition. Peut-être avant de parler de l'exposition en elle-même, parlons de Charlotte Zobel et de Patrice Thérèse, avant que je dise des bêtises.
Thérèse,
voilà, je vais pas y arriver moi les noms ce matin, c'est terrifiant. Qui sont-ils justement ces deux photographes, Eric?
Charlotte Zobel est une photographe qui vit à Générargues, près d'Alès. Elle a fait beaucoup de travail de photographie. Alors, on a pu voir certaines de ses photos dans différentes galeries dans la région, pas uniquement dans la région d'ailleurs. Et elle fait des photos depuis pas mal de temps. Et puis Patrice Thérèse, c'est un photographe qui vit à Marseille. Qui fait partie d'une maison de photographes qui s'appelle Signature, qui a eu énormément de projets depuis le temps qu'il tourne. Et on le connaît parce que, enfin nous personnellement, on le connaît parce que ça fait presque 30 ans maintenant qu'il fait les photos, les portraits des invités du Festival Cinéma d'Alès Itinérance.
Alors, cette expo, justement, instantanée, ça a vraiment un sens, puisque pendant 6 mois, si je ne dis pas de bêtises, ces deux photographes ont en fait arpenté les rues des quartiers, notamment d'Alès, d'Anduze, de la Grande Combe et de Saint-Ambois. Et qu'est-ce qu'ils y ont fait, en fait? Comment ils ont travaillé et comment ils ont pris ces clichés instantanés, justement?
Oui, en fait, ils ont arpenté ces quartiers-là, qui sont les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Parce que ce projet, au départ, ça a été initié par la préfecture du Gard. Donc, voilà, qui avait juste cette idée-là de dire, voilà, les quartiers prioritaires politiques de la ville, c'est pas uniquement les clichés qu'on connaît tous sur des zones urbaines avec pas grand-chose qui s'y passe et de l'ennui et éventuellement de la délinquance. Donc, leur mission, c'était d'aller voir dans ces quartiers et d'essayer de trouver ce qui sortait un peu de l'ordinaire. Mais au-delà de ces lieux-là, c'est aussi les gens et leurs passions, leurs actions, tout ce qu'ils font et qui sort un peu de l'ordinaire.
Alors, juste, je reviens sur ce que vous disiez, justement, que ce sont des quartiers classés prioritaires, en fait, par la ville. Pourquoi la ville, justement, s'est dit, on a envie de montrer un visage différent des clichés qu'on peut avoir, justement, tous les jours sur des quartiers qu'on dit prioritaires? Pourquoi la ville a eu cette idée-là de dire, non, on veut les montrer autrement, on voulait montrer tels qu'ils sont, loin des clichés?
Bah, tout simplement parce qu'en fait, les clichés qu'on en a tous, hein, c'est pas ceux avec quoi ils sont en prise tous les jours. Et en fait, lorsqu'il y a des gens qui ont des projets et qui font bêtement des demandes de subventions politiques de la ville pour les soutenir à ça, ce qu'ils voient, c'est les gens à la préfecture ou à la ville, ce sont des projets innovants, des projets qui vont vers les gens et vraiment vraiment au-delà du cliché. Et donc ils ont dit, mais on montre jamais ce genre de choses, on montre rarement ce genre de choses, donc essayons de le faire par une exposition photo.
Moi j'en ai vu quelques-unes des photos sur le dossier de presse que vous nous avez envoyé. Auditeurs, auditrices, il faudra y aller pour les découvrir, mais est-ce que peut-être vous pouvez nous donner quelques exemples justement sur cet extraordinaire de quartier qu'on peut retrouver dans cette exposition photo?
Il y a une jeune boxeuse qui a 14 ans, qui est à Alès et qui est championne du monde dans sa catégorie. Il y a un batteur qui habite plus maintenant à la Grande Combe, mais qui a été batteur pour Kenji Girac, je crois, Yannick Noah, Louane. Et puis il y a un champion du monde de hip-hop aussi qui a 14 ans, qui est à Alès. Charlotte Zobel, par exemple, a photographié un atelier de fabrication de harpes en bois et carton. Et en fait, pour apprendre à jouer de l'harpe, voilà une pratique de la harpe, l'idée c'est quand même de construire son instrument avant. C'est assez original. Voilà, il y a un homme à Saint-Ambrois qui construit ses ULM dans son garage.
Alors, cette exposition instantanée de quartier, donc qui commence samedi et qui va jusqu'au 21 décembre, est-ce que vous pouvez nous donner le lieu exact de là où elle est exposée et surtout les horaires aussi?
Alors, ce sera, donc, vous l'avez dit, du 16 au 21 décembre, tous les jours, sauf le dimanche 17, ce sera de 14h à 18h30. Et c'est à la salle d'exposition du pôle culturel et scientifique de Rochebelle à Alès.
Au Faubourg de Rochebelle, l'adresse est 155 Faubourg de Rochebelle, pas très loin du musée PAB. Et surtout, c'est gratuit, c'est entrée libre pour voir cette expo.
Eh bien, en tout cas, Eric, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de cette exposition. Auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à aller faire un tour justement pour avoir peut-être un regard différent sur des quartiers que vous connaissez ou que peut-être vous ne connaissez pas. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler ce matin.
Merci
à vous et puis bonne exposition.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Propos recueillis par Camille Jonin de Radio Bardas. Et bien voilà, votre magazine est maintenant terminé. Il a été réalisé par Radio Bardas à Florac. Nous vous souhaitons un excellent week-end et une excellente semaine.
Carnet de région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Pyrénées-Orientales, Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en langue de Croussillon.